Guillaume mit plus de tendresse dans son étreinte. Le regard qu'il levait sur le visage effrayé de sa femme devint d'une douceur exquise. « Que crains-tu ? » continua-t-il. « N'es-tu pas dans mes bras ? Personne ici ne peut venir nous affoler. Ah, quelle joie je goûte à me dire que pas un être sur la terre ne sait que nous sommes dans cette chambre. Être ignoré de tous, vivre ainsi au fond d'une retraite cachée, se dire qu'aucune créature, amie ou ennemie, ne peut venir frapper à votre porte, n'est-ce pas la suprême peine dont nous avons besoin ? J'ai toujours fait le songe de vivre au désert, et bien des fois j'ai cherché dans la campagne quelques trous perdus pour m'y enfouir. Lorsque je ne voyais plus les paysans ni les fermes, lorsque je me trouvais seul en face du ciel, certain de n'être aperçu par aucun passant, je me sentais triste, triste à mourir, mais d'une tristesse qui me plaisait, qui me retenait là pendant des heures. Et je suis ici avec toi, Madeleine, comme j'étais autrefois seule au milieu des champs. Retrouve ton sourire, ton bon sourire. Elle hocha de nouveau la tête, passant la main sur son front, comme pour écarter les inquiétudes sourdes qui la tenaient ainsi froide et abattue. Guillaume poursuivit. « J'ai toujours eu la haine et l'effroi du monde. Le monde ne peut que nous blesser. En partant de Vétheuil, j'avais l'intention d'aller étourdir nos souffrances dans le tapage de Paris. » Mais combien le calme de cette solitude est plus salutaire! Il n'y a que deux êtres qui s'aiment dans cette chambre. Vois, je te tiens entre mes bras. Je puis tout oublier, tout pardonner. Personne n'est là dont les regards moqueurs m'empêchent de te serrer sur ma poitrine. Personne qui raille l'abandon que je te fais de mon être entier. Je veux que nous nous adorions plus loin et plus haut, au-dessus des amours vulgaires et convenus de la foule, dans une tendresse absolue qui n'ait point le souci des misères et des hontes d'ici-bas. Que nous importe le passé, et pourquoi nous inquiéter des blessures du dehors ? Il suffit que nous nous aimions, que nous demeurions au cou l'un de l'autre, perdus en nous-mêmes, sans jamais voir ce qui se passe autour de nous. Tant qu'il restera un coin où nous puissions nous cacher, il nous sera permis de chercher et de trouver le bonheur. Disons-nous que nous ne connaissons plus un être, que nous sommes seuls sur la terre, sans famille, sans enfants, sans amis, et abîmons-nous dans la pensée de notre affection solitaire. Il n'y a plus que nous au monde, Madeleine. Et je me livre à toi. Je suis heureux d'être faible, de te dire que je t'aime encore. Tu as désolé ma vie, et je t'aime, Madeleine. » Il s'animait peu à peu en parlant. Sa voix, basse et ardente, avait des ferveurs de prière. Elle se traînait avec des humilités subites, puis vibrait d'une façon douce, pénétrante. Il était dans une de ces heures de réaction où le cœur se vide après être resté longtemps fermé. Comme il le disait, il aimait la solitude parce qu'il pouvait y être faible à son aise. Si Madeleine lui avait alors rendu son regard d'adoration, il eût poussé peut-être ses lâchetés d'amour jusqu'à s'agenouiller devant elle. Il goûtait une jouissance étrange après ses angoisses de la veille, à s'abandonner aux bras de cette femme, loin de tous les yeux. Ce rêve qu'il faisait de s'absorber à jamais dans elle, d'oublier le reste du monde sur son sein, ce songe d'une existence d'affection et de sommeil, était le cri éternel de ces délicatesses nerveuses blessées à chaque instant par les rudesses de la vie. Lentement, Madeleine se sentait soulagée par le murmure de tendresse, par les étreintes chaudes de Guillaume. Ses yeux gris s'éclairaient, ses lèvres s'ouvraient et devenait rose. Elle ne souriait pas encore. Elle éprouvait simplement une grande douceur à se voir aimée d'une façon si absolue. Elle cessa de contempler le feu. Elle tourna la tête du côté de son mari. Quand celui-ci eut rencontré ses regards, il reprit avec un attendrissement plus grand. « Si tu voulais, Madeleine, nous nous en irions ainsi par les chemins, voyageant au jour le jour, couchant où le hasard nous pousserait, et repartant le lendemain pour l'inconnu. Nous quitterions la France, nous gagnerions à petite journée les pays de soleil et d'air pur. Et dans ce renouvellement continuel des horizons, nous nous sentirions plus seuls, plus unis. Personne ne nous connaîtrait. Pas un être n'aurait le droit de nous adresser la parole. Nous ne dormirions jamais qu'une nuit dans les auberges trouvées au bord des routes. Nos amours ne pourraient s'y fixer. Nous nous détacherions bientôt du monde entier pour ne plus nous attacher que l'un à l'autre. Je rêve l'exil, Madeleine, l'exil qu'il me serait permis de vivre sur ton sein. Je désirerais n'emporter que toi, me sentir battue par le vent, me faire un oreiller de ta poitrine, là où la tempête m'aurait jetée. Rien n'existerait pour moi que cette poitrine blanche dans laquelle j'écouterais battre ton cœur. Puis, quand nous serions perdus au milieu d'un peuple dont nous ignorerions la langue, nous n'entendrions plus que nos causeries. Nous pourrions regarder les passants comme des bêtes muettes et sourdes. Alors, nous serions vraiment isolés. Nous traverserions les foules sans nous soucier de ces troupeaux, du pas indifférent dont nous traversions autrefois, pendant nos promenades, les bandes de moutons qui broutaient les chaumes. Et nous marcherions ainsi, à jamais. Veux-tu, Madeleine ? Un sourire était peu à peu monté aux lèvres de la jeune femme. Son être roidi se détendait. Elle s'abandonnait sur l'épaule de Guillaume. Elle avait passé un bras autour de son cou, le regardant d'un air apaisé. « Que tu es enfant !» murmura-t-elle. « Tu rêves éveillé, mon ami. Tu m'offres là un voyage dont nous aurions assez au bout de 8 jours. » Pourquoi pas tout de suite nous faire construire une de ces maisons ambulantes, comme en ont les bohémiens ? Et elle trouva même un petit rire de moquerie légère et tendre. Guillaume se fût peut-être chagriné si elle n'avait accompagné son rire d'un baiser. Il hocha doucement la tête. « C'est vrai, je suis un enfant, » dit-il. « Mais les enfants savent aimer, Madeleine. » Je sens que maintenant la solitude est nécessaire à notre bonheur. Tu parles des bohémiens. Ce sont des gens heureux qui vivent au soleil et que j'ai enviés plus d'une fois quand j'étais au collège. Les jours de sortie, j'envoyais presque toujours des bandes à la porte de la ville, campées dans un terrain vague où les charrons du voisinage tenaient leur chantier de bois. Je m'amusais à courir sur les longues poutres étendues sur le sol, en regardant les bohémiens qui faisaient bouillir leurs marmites. Les enfants se roulaient à terre. Les hommes et les femmes avaient des figures étranges. L'intérieur des voitures, que je cherchais à apercevoir, m'apparaissait comme un monde d'objets bizarres. Et je restais là, tournant autour de ces gens, ouvrant des yeux curieux et effrayés. Je sentais encore sur mes épaules les meurtrissures des coups de poing que mes camarades m'avaient donnés la veille. Je rêvais parfois de m'en aller bien loin, dans une de ces maisons roulantes. Je me disais, si l'on me bat encore cette semaine, je m'en irai dimanche prochain avec les bohémiens. Je les supplierai de m'emmener au fond de quelque pays où l'on ne me frappera pas. Mon imagination d'enfant se plaisait au rêve de cet éternel voyage en plein air. Mais je n'ai jamais osé. Ne te moque pas, Madeleine. Elle souriait toujours. Elle encourageait du regard les confidences de son mari. Ses puérilités la calmaient, lui cachaient un instant le drame qui les torturait tous deux. « Il faut dire, » continua Guillaume gaiement, « que j'étais un enfant singulièrement sauvage. Les coups m'avaient rendu sombre, insociable. La nuit, au dortoir, lorsque je ne pouvais dormir, je voyais, en fermant les yeux, des coins de paysage, d'étranges solitudes, qui se bâtissaient brusquement dans ma tête, et que j'arrangeais ensuite, peu à peu, tel que les désirait ma nature farouche et tendre. C'étaient le plus souvent des gouffres de rochers. En bas, au fond des gorges noires, grondaient des torrents. Puis les flancs des collines montaient, roides, grisâtres, dans un ciel d'un bleu implacable, où tournaient lentement des aigles. Et parmi les blocs énormes, au bord de l'abîme, je mettais une dalle blanche où je me voyais en pensée, assis et comme mort, au milieu de la désolation et de la nudité de l'horizon. D'autres fois, mes rêveries se faisaient plus douces. Je créais une île, grande comme la main, jetée au sein d'un large fleuve tranquille. Je distinguais à peine les rives lointaines, pareilles à deux bandes verdâtres perdues au milieu du brouillard. Le ciel était d'un gris pâle, les peupliers de mon île montaient droit dans les vapeurs blanches de l'eau. Alors, je m'apercevais, couché sur l'herbe molle, bercé par la grande voix sourde et continue du fleuve, rafraîchi par les souffles gras de cette nature humide. Ces paysages que j'évoquais et que je me plaisais à modifier sans cesse, ôtant une roche, ajoutant un arbre, m'apparaissaient avec une netteté singulière. Ils me consolaient, ils m'emportaient dans des pays inconnus où je croyais vivre des vies entières de silence et de paix. Lorsque j'ouvrais les yeux, lorsque tout s'effaçait et que je me retrouvais au fond du dortoir morne, éclairé d'une lueur blafarde par une lampe de nuit, mon cœur se serrait d'angoisse. J'écoutais la respiration de mes camarades, redoutant de les entendre se lever et de les voir venir me battre pour me punir d'avoir essayé de leur échapper dans mes rêves. Il s'arrêta, rendant à Madeleine les baisers qu'elle lui mettait sur le front. Elle était émue par le récit qu'il lui faisait des souffrances de sa jeunesse. Dans cette heure d'épanchement, elle pénétrait les délicatesses de ce tempérament nerveux. Elle se jurait d'aimer Guillaume comme il le méritait, avec des tendresses ranimées et absolues. « Plus tard, reprit-il, lorsque la pensée me prit de me sauver en compagnie des bohémiens, je cédai uniquement à l'espérance de retrouver le long des routes les paysages que j'avais vus en rêve. Je croyais fermement que je les rencontrerais quelque part. Je m'imaginais les avoir devinés tels qu'ils devaient être. C'était sans doute un bon ange qui me les avait révélés, car j'écartais l'idée d'avoir pu les créer de toutes pièces. Et j'aurais véritablement ressenti un grand chagrin si l'on eût prouvé qu'il n'existait qu'au fond de mon cerveau. Ils m'appelaient, ils me disaient d'aller me reposer parmi eux, ils me promettaient une vie d'éternelle paix. » Il s'arrêta de nouveau, hésitant, n'osant continuer. Puis, avec un sourire timide, de l'air embarrassé d'un homme fait qui avoue un enfantillage, « Et te le dirai-je, Madeleine, » murmura-t-il. « Je crois toujours qu'ils existent, ces horizons où j'ai vécu bien des nuits de mon enfance. Le jour, on me martyrisait. Je regardais les murailles froides du collège avec des désespoirs de prisonniers enfermés dans une salle de torture. La nuit, je courais les champs, je me saoulais d'air libre, goûtant une joie profonde à ne plus voir de points levés sur ma tête. Je menais deux vies d'une réalité aussi poignante. Va, mes rêves ne peuvent m'avoir trompé. Si nous cherchions, nous trouverions quelque part sur la terre mon gouffre de rochers, mon île jetée au milieu d'un large fleuve tranquille. Et c'est pour cela, Madeleine, que je veux m'en aller au hasard, persuadée de rencontrer un jour mes solitudes rêvées. Si tu savais combien elles étaient douces et calmes dans mes songes, nous y dormirions d'un bon sommeil, nous y vivrions à jamais loin du monde, loin de tout ce qui nous a blessés. Ce serait la vie devenue rêve. Veux-tu que nous nous mettions en quête de ces coins heureux? Je les reconnaîtrai, je te dirai. C'est là qu'il faut nous aimer. Et ne ris pas, Madeleine, ils existent, je les ai vus. » La jeune femme ne riait plus. Des larmes montaient à ses yeux, ses lèvres tremblaient d'émotion. Les paroles de Guillaume, le chant léger qu'il murmurait à son oreille, la faisaient pleurer. Comme il l'aimait, et quelle profondeur d'ineffable tendresse elle trouvait en lui. À son insu, le regret de ne pouvoir se donner à lui entière et sans arrière-pensée redoublait son attendrissement. Mais elle ne croyait alors ressentir dans tout son être que la caresse de ses paroles tombant une à une sur son cœur. Elle baisait de temps à autre son mari au visage tandis qu'il parlait. Elle se laissait aller sur sa poitrine, ployant sous son étreinte, le tenant elle-même étroitement par le cou. Les bûches embrasées, qui jetaient de grandes flammes jaunes, les éclairaient d'une lumière tiède, et derrière eux, la vaste chambre inconnue dormait. « Enfant, enfant !» répéta Madeleine. « Va, si nous ne pouvons réaliser ton rêve, nous saurons toujours bien nous aimer. »« Pourquoi ne pas fuir ?» reprit Guillaume avec insistance. Elle eut de nouveau un léger sourire. « Parce que nous ne pouvons aller habiter les châteaux en Espagne, mon cher poète, » répondit-elle. « Le bonheur doit être en nous. Il est inutile de nous en remettre au hasard pour le trouver. Je vois que tu as tout oublié. Je sens que j'oublie à mon tour. Il nous reste encore de bonnes heures à vivre ensemble. » Et comme son mari s'attristait, elle ajouta gaiement, « À présent, nous serons heureux partout. Je défie le malheur. Je ne sais quel frisson m'avait prise sur la route. Je dormais à moitié. Le froid devait m'avoir saisi. Puis, cette auberge m'a produit un étrange sentiment de répugnance. Mais depuis que nous sommes là à nous chauffer et à causer, je trouve que tu as raison. On est bien ici, dans ce grand silence qui nous environne. C'est que tes paroles ont calmé mes angoisses, j'espère. » Guillaume se consola vite en l'entendant parler de la sorte. « Oui, espère, Madeleine, » dit-il. « Vois comme nous sommes unis l'un à l'autre. Rien ne nous séparera plus. »« Rien, » reprit la jeune femme, « si nous nous aimons toujours ainsi. Nous pouvons retourner à Vétheuil, aller à Paris, nous nous retrouverons en tout lieu avec notre amour. Aime-moi sans cesse, comme tu viens de m'aimer, et je guérirai, je te le jure, je suis à toi. Entends-tu? À toi tout entière. » Ils se serrèrent dans une étreinte plus étroite. Pendant quelques minutes, ils échangèrent des baisers muets. Minuit sonna à la pendule. « Déjà minuit ? » s'écria Madeleine. « Il faut nous coucher pourtant, si nous voulons nous éveiller de bonne heure. » Elle quitta les genoux de Guillaume, qui se leva en disant « Je vais descendre un instant à l'écurie. Je veux voir comment ce garçon a soigné mon cheval. Tu n'auras pas peur seule dans ma chambre. »« Peur de quoi ? » reprit la jeune femme en riant. « Tu sais bien que je ne suis pas poltronne. Tu me retrouveras sans doute couchée. Dépêche-toi. » Ils se donnèrent un dernier baiser. Guillaume descendit, laissant la clé sur la porte. Quand Madeleine fut seule, elle resta un moment absorbée, contemplant le feu avec le vague sourire que les paroles tendres de son mari avaient mis sur ses lèvres. Comme elle venait de le dire, elle éprouvait un grand apaisement. Elle se sentait bercée par de nouveaux espoirs. Jusque-là, elle n'avait pas jeté un regard dans la chambre. Elle était venue, en entrant, droit à la cheminée pour se chauffer les pieds, et y était demeurée, assise sur les genoux de Guillaume. Lorsqu'elle sortit de son immobilité, elle voulut ranger, avant de se coucher, les quelques paquets que le garçon avait montés et jetés au hasard. Elle leva les yeux, elle regarda autour d'elle. Tout son malaise lui revint alors, sans qu'elle pût d'abord s'expliquer la terreur vague qui la reprenait. Elle était secouée par la même sensation de répugnance et d'anxiété qu'elle avait déjà ressentie dans la cour de l'auberge. Il lui semblait reconnaître la chambre. Mais la bougie éclairait si faiblement les murs qu'elle ne distinguait rien nettement. Elle se traita de folle, de peureuse, pensant qu'elle rêvait debout. Tout en raisonnant pour se rassurer, elle poussait les paquets dans un coin. Il manquait un sac de nuit. Elle le chercha des yeux et l'aperçut sur le marbre de la commode où le garçon l'avait déposé. Il masquait entièrement la pendule de verre filé. Quand Madeleine eut pris le sac et qu'elle eut découvert cette pendule, elle resta clouée devant elle, horriblement pâle. Elle ne s'était pas trompée. Elle connaissait l'auberge. Elle connaissait la chambre. Elle y avait couché autrefois avec Jacques. L'étudiant était un canotier enragé. Souvent, il allait par eau jusqu'à Rouen avec des amis qui emmenaient leur maîtresse. Madeleine avait fait un de ses voyages. Arrivée à Mantes, elle s'était trouvée indisposée et toute la bande avait envahi l'auberge du Grand Cerf. Immobile, hébétée, la jeune femme examina la pendule. Un pareil objet ne pouvait lui laisser aucun doute. Les châteaux de verre filé sont rares. Elle reconnaissait d'ailleurs les galeries légères, les fenêtres ouvertes par lesquelles on apercevait les chambres et les salons de l'intérieur. Elle se souvenait d'avoir longtemps ri avec Jacques des petites poupées qui habitaient ses pièces. Ils avaient même retiré le globe et s'étaient amusés à changer les poupées d'appartement. Il lui semblait que ces faits dataient de la veille, qu'elle revoyait la pendule après une absence de quelques heures. La bougie, placée à côté de cette verrerie frêle, pénétrait de ses rayons les minces colonnades, les salles étroites aux murailles transparentes, mettant une pointe de lumière dans chaque goutte de verre qui avait coulé, changeant en aiguilles de feu les rampes des balcons. On eût dit un palais féerique, un palais que des millions de lampions imperceptibles illuminaient de feux jaunes et verts. Et Madeleine regardait ce scintillement d'étoiles d'un air terrifié, comme si ce joujou fragile eût renfermé une arme terrible et menaçante. Elle recula, elle prit le bougeoir et fit le tour de la chambre. À chaque pas, elle trouva un souvenir. Elle reconnut une à une les images coloriées qui racontaient l'histoire de Pyram et de Thisbé. Certaines taches de papier peint attirèrent ses regards. Chaque meuble lui parla du passé. Quand elle arriva devant le lit, elle s'imagina que les draps n'avaient pas même été changés et qu'elle allait coucher avec Guillaume dans ses toiles encore chaudes du corps de Jacques. Ce fut cette pensée qui la brisa. Elle avait marché dans la pièce d'un pas de somnambule, les yeux grands ouverts, les lèvres pincées, examinant chaque chose avec une minutie de folle, paraissant attacher un immense intérêt à ne laisser échapper aucun détail. Mais lorsqu'elle eut touché les rideaux de cotonnade bleue à bordure de fleurs pâles, qu'un bâton tenait suspendu au-dessus du lit, elle sentit ses jambes fléchir tout à coup. Elle dut s'asseoir. Maintenant, sa pensée se fixait à cette couche étroite, bombée au milieu, comme une pierre blanche de tombe. Elle se disait que jamais elle ne consentirait à coucher là avec Guillaume. Elle se prit le front entre les mains, croyant que son cerveau allait éclater. Une rage sourde montait en elle. L'acharnement que les souvenirs mettaient à la poursuivre et à la frapper l'exaspérait. Ne pourrait-elle donc plus dormir une nuit tranquille? Ne lui serait-il plus permis d'oublier? Jacques l'atteignait jusque dans l'inconnu, jusque dans cette chambre d'auberge où le hasard venait de la pousser. Et elle avait eu la sottise d'espérer, de prétendre qu'elle se sentait apaisée et guérie. Elle aurait plutôt dû écouter son épouvante, son malaise qui l'avertissait du coup dont elle était menacée. Cette fois, elle en sortirait folle. Qu'allait-elle dire à son mari, à cet homme dont les paroles tendres la berçaient d'un rêve menteur quelques minutes auparavant? Aurait-elle le courage de lui crier « Viens, tu t'es trompée, cette chambre est maudite, je l'ai habitée avec mon premier amant » Ou bien se tairait-elle? Accepterait-elle de se prostituer entre les bras de Guillaume en songeant à Jacques? Dans son anxiété, elle regardait la porte, elle écoutait les bruits vagues de la maison, redoutant d'entendre les pas de son mari, frissonnante à l'idée de le voir entrer et de ne savoir que lui dire. Comme elle prêtait l'oreille, il lui sembla que quelqu'un marchait doucement dans le couloir et s'arrêtait à sa porte. On frappa d'une façon discrète. « Entrez !» cria-t-elle machinalement, troublée, ne sachant ce qu'elle disait. Ce fut Jacques qui entra.